Quel meilleur gage de la convoitise peut-on trouver que le manger? Qu'est-ce que manger, en effet? C'est prendre quelque chose et le détruire pour l'assimiler en soi, le faire soi. C'est exactement le mouvement de la convoitise, ou de l'envie, qui consiste à accaparer, à monopoliser. Et la meilleure manière d'accaparer pour soi seul ce que l'on ne veut pas partager, c'est de le détruire. Autrement, le risque existe toujours qu'un autre, un concurrent, s'en empare. Hein, c'est la peur du concurrent. Hein, ça, c'est la stratégie du serpent, qui se fait en concurrent de Dieu, et qui montre que Dieu ne veut pas de concurrent. Il projette son image, l'image de sa jalousie, sur Dieu. Autrement, le risque existe toujours qu'un autre, un concurrent, ne s'en empare. Ainsi donc, la manière même de raconter la faute la désigne comme le résultat de la convoitise. Cette interprétation se trouve déjà dans la Bible. En dehors de l'épître de Jacques, il l'a cité plus haut, il y a le livre de la sagesse, qui écrit, au chapitre 2, verset 24, « C'est par l'envie que la mort est entrée dans le monde, et ils la subissent ceux qui se rangent dans son parti. » L'envie. Je voudrais ce que l'autre a, ou je ne voudrais pas que l'autre ait ce que j'ai. Au lieu de me réjouir de ce que l'autre a, ah, puisqu'il s'il l'a, c'est aussi pour moi. Donc, je ne le perds pas. Je veux l'avoir pour moi. Mais pourquoi donc pour moi? Vous voyez? La mort, la dégradation des relations vitales et vitalisantes, est en effet la conséquence du choix, de l'envie ou de la convoitise. Mais le texte ajoute, et de fait il l'a tronqué, il a dit c'est par l'envie, il a oublié un mot, c'est par l'envie du diable, selon l'étymologie du mot grec diabolos, le diable est un diviseur, un disperseur. Aussi, on pourrait commenter la phrase comme ceci, c'est par l'envie qui divise, qui empêche l'alliance, que la mort entre dans le monde. Dès qu'il y a mésalliance, dès qu'il y a doute sur l'autre, dès qu'il y a manque de confiance, le péché originel est là. Vous voyez, ce qui est demandé par Dieu, c'est une confiance de plus en plus profonde et radicale. La convoitise est donc à la racine du mal et de la violence. Et nous allons la voir demain, la violence, selon le message de la Genèse. Et son processus chez l'être humain y est décrit avec minutie. La convoitise fixe les regards sur les limites humaines, ce que les philosophes appellent la finitude. Et elle fait oublier que la vie est aussi un don merveilleux. Les limites, au lieu d'être vues comme un lieu possible de relations épanouissantes avec autrui, apparaissent comme un mal, une frustration qui empêche de vivre et d'être heureux. La vie en devient méchante. On en vient à appeler le bien mal et le mal bien. Oui. On réfléchit à partir de soi. On devient solitaire. Il n'est pas bon que l'homme, que l'humain, homme ou femme, soit seul. C'est le mensonge. Et à accuser les autres de vouloir mon malheur et ma mort, parce qu'ils ont ce que je voudrais avoir ou qu'ils pourraient prendre ce que j'ai. Dans ces conditions, il n'y a plus aucune raison de respecter les limites et ses rivaux qui voudraient dicter leur loi. Alors je prends et je mange. Et je casse par violence les relations qui me faisaient vivre. Dans le premier chapitre, on introduit, on établit des relations, dans le second aussi. Et c'est précisément la relation qui est entachée de faute, qui est malade. Si le récit de la Genèse démonte ainsi le chemin de la convoitise chez l'être humain, c'est pour avertir que tout se joue autour de la façon dont on use du don que l'on reçoit. Et le don essentiel, c'est la vie. C'est un don. Ce n'est pas seulement un donné sur lequel on réfléchit. C'est un don, donc il y a un donateur. Et donc je vis le don en présence du donateur. Mettre en lumière dans une histoire type le piège que tend en nous le sentiment de nos limites et montrer comment son chemin est une lente dérive vers la violence et la mort, violence vis-à-vis des autres, violence vis-à-vis de moi, c'est important. En effet, pouvoir démonter un tel processus, c'est d'une certaine manière avoir prise sur lui et peut-être devenir capable, dans une certaine mesure, de le maîtriser et de l'enrayer. Je le regarde, j'en prends acte et je le dis, je l'exprime, je l'explicite, je le mets en dehors de moi, je l'objective. Pour les chrétiens, Jésus est celui qui a échappé totalement à ce processus. Non pas magiquement, mais dans les choix concrets qu'il a posés pendant sa vie. La convoitise n'a jamais eu prise sur lui. Tel est en tout cas le témoignage qui lui est rendu dans l'Épître aux Philippiens. Jésus, comme image de Dieu, n'a pas tenu pour une proie à saisir d'être à égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même à l'image d'un serviteur. Au lieu d'accaparer, Jésus s'est vidé de lui-même en donnant, en se donnant. Et le texte continue, « Lui qui avait tout d'un homme, il s'est lui-même fait petit, devenant obéissant jusqu'à la mort. » Il a pris la dernière place sans rien revendiquer pour lui et sans aucune jalousie. Et il s'est mis à l'écoute des autres, des hommes et de Dieu. C'est pourquoi, poursuit Paul, il y a aussi un « c'est pourquoi », l'homme qui fera son père et sa mère, c'est pourquoi, poursuit Paul, Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, il a dit que c'était vraiment l'homme tel que Dieu le rêve. C'est un tel homme que Dieu approuve. Et il lui donne son propre nom, parce qu'en lui, il reconnaît son fils, son véritable Adam. C'est ainsi que Jésus révèle Dieu. Il est l'image de ce Dieu qui donne tout sans se réserver aucun privilège, sans rien garder pour lui. Le Dieu du premier versant du texte, passionné de la vie de l'homme. Mais Jésus révèle aussi qui est l'homme. Car en lui, on peut voir que l'être humain n'est pas enfermé dans la logique du serpent, logique de convoitise et de rivalité, mais qu'il peut aller jusqu'au bout sur le chemin de Dieu, celui du don et de l'alliance. Au long de ce chemin, à son terme, il y a la vie. Telle est la foi des chrétiens qui rendent témoignage à Jésus dans le Nouveau Testament. Vous voyez que c'est bien dit, c'est bien exprimé. Et je trouve que, dans cette conclusion, il dit bien l'essentiel de ce message du proto-évangile, du premier évangile. Et alors, si vous voulez regarder... Pardon ? C'est Actualité des mythes de André Wenin, W-E-N-I-N. Il les jette de Namur. Actualité des mythes, et ça a paru au CEFOC, novembre 93. CEFOC, Centre Cardaine. Bon, alors, lorsque je lis ce texte, je vous signale aussi, je ne vais pas tout prendre, bien entendu, quelque chose de très beau. Il y a au centre de ce petit dossier de la Bible, dont je vous ai parlé, interpréter la Bible, il y a un vitrail de Chartres. Ce vitrail est le vitrail du bon samaritain. Et chose étrange, ce vitrail du bon samaritain commence au-dessus par l'histoire d'Adam et Ève. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il a pris à ce vitrier du Moyen-Âge de mettre tout cela ensemble. On nous montre ici, dans toute cette histoire, Jésus, le bon samaritain, qui a pris en charge l'humanité blessée et l'amène à l'hôtellerie. L'hôtellerie où on le soigne, c'est le monde dans lequel nous vivons et où nous nous soignons les uns les autres. L'Église où elle peut être soignée et guérie. Et donc on relit dans ce passage du bon samaritain toute l'histoire de la faute d'Adam et de l'homme tombé, blessé, aux mains des brigands, et qui est remis en selle et soigné dans l'Église. Alors, ici, je n'ai pas à le reprendre. À partir de la page 19, il parle en effet des chapitres 2 et 3 de la Genèse. Et alors, il nous montre que la lecture du texte de Genèse peut être lue en va-et-vient avec différents textes de l'Ancien Testament. Et il parle aussi de la vie d'Adam et Ève. Donc, il montre comment ce texte n'est pas un texte isolé, comment il est lu et relu à travers l'histoire. Ancien Testament, bien sûr, Nouveau Testament, puisque vous voyez qu'un homme qui fabrique des vitraux l'a pris pour traiter la parabole du bon samaritain. Vous avez ici aussi une approche sociologique. Je vous donne quelques questions qui sont posées par cette approche sociologique. Que dit le texte de la connaissance du bonheur et du malheur, de la volonté de posséder la maîtrise de la vie, du mal et du péché, dont sont responsables les hommes eux-mêmes et non les dieux, comme dans les mythes du Moyen-Orient? Que dit-il d'un Dieu qui, en définitive, accepte ces chemins d'humanité que se sont créés les hommes? Dieu est bien réduit à faire ce que à agir selon ce que l'homme lui donne. La lecture pratiquée, disions-nous, peut ouvrir sur un dialogue entre croyants d'aujourd'hui et d'hier. Elle appelle à écrire à notre tour le récit de nos propres chemins, de notre expérience actuelle de l'Alliance. Alors, il pose quatre questions. Dans quel domaine de notre existence sommes-nous appelés à faire notre deuil d'un paradis rêvé? Recevoir notre vie comme un don? Notre paradis est toujours limité. Deux, comment assumer nos responsabilités de gestionnaire d'une terre, et j'ajouterai d'une vie qui nous est confiée? Trois, quel chemin avons-nous à inventer pour que les rapports humains fassent vivre et s'épanouir, chacun dans nos sociétés modernes? Quelle attention faisons-nous à l'autre? Quatre, quelle découverte de Dieu y faisons-nous? Lecture à partir de la sociologie. Lecture, approche par l'anthropologie culturelle. Les premiers textes de la Genèse ne sont pas des romans. Ils ont plutôt pour rôle de fournir des points de repère qui permettent à l'être humain de se situer par rapport à la nature, dans sa vie de couple, dans ses relations avec les autres et avec la transcendance. À l'époque où ils sont écrits, il n'y a pas de psychologue, de politologue, de sociologue, ni aucune des sciences qui nous fournissent les clés de compréhension de notre monde. Ces clés se trouvent, pour les gens d'alors, dans les récits fondateurs comme ceux de la Genèse. La lecture anthropologique recueille la compréhension de l'homme qui s'en dégage. Qu'est-ce que la vie pour l'homme? Homme et femme, le mystère du mal. Puis, vous avez une lecture psychanalytique où il parle, notamment, il reprend, après Marx et Nietzsche, il reprend précisément l'acquis de la démarche de Marie Balmary. Marie Balmary a sans doute ouvert une voie neuve par une rigueur d'analyse jusque-là inconnue. Elle s'y intéresse à ce qui permet aux êtres de naître ou de renaître à eux-mêmes. Son dernier ouvrage, La divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme, part des récits fondateurs de Genèse 2-3, avant de rejoindre le décalogue et diverses paroles de fils jusqu'aux évangiles. Autant qu'un récit de création et de transgression, les deux chapitres de la Genèse sont le récit de l'émergence du sujet humain, de l'accès à la conscience. Le premier « je » de l'homme, « j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché, tiens. » Le premier « je » de l'homme vient après le péché. C'est pour dire la peur, la nudité. En ce sens, il est juste de dire que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme. Il existe bien deux « je » incréés. Il faut en effet bien discerner ce qui revient à l'œuvre du Créateur et à l'être de parole qu'est l'humain. En outre, le serpent qui dévie l'interdit initial fait croire à la femme que Dieu a instauré une ségrégation entre le divin et l'humain. Il propose une autre logique, fondée sur cette ségrégation qui fait de Dieu un rival. Cela pour empêcher l'émergence des sujets, la relation de « je » et de « tu ». Cette logique perverse du serpent, bien entendu, affleure souvent dans le langage religieux, où Dieu apparaît comme un rival dont on ne se libère qu'en transgressant la loi. Alors que la véritable libération, c'est en découvrant pourquoi il nous donne la vie par cette loi. Et puis, il termine, et moi je terminerai là-dessus encore aujourd'hui, par deux approches, l'une libérationniste. Dans un village africain, grâce au magnétoscope, un père de mission passait un film pour le divertissement de la communauté. Enregistré sur une télévision européenne, ce film était entrelardé de coupures publicitaires. Quel choc! On y vantait la saveur d'une crème au chocolat, le plaisir d'une voiture de luxe, et enfin des vacances de rêve en Grèce. Cette publicité anodine en Europe devenait insupportable dans le contexte africain, vu la précarité du niveau de vie de ce village. Le contexte africain donnait une autre signification aux annonces publicitaires. Hein? Ça devient une tentation. Vous voyez comment, hein, dans un texte, dans un contexte déterminé, un texte peut changer de sens, d'après la manière dont on le voit. Et puis finalement, hein, il parle de l'approche féministe de la Bible. Le texte de Genèse 2-3 se prête évidemment à une telle approche. Au cours des siècles, on n'a pas manqué de s'y référer pour justifier la misogynie et le sort fait à la femme dans la société. C'est pourquoi j'ai pris tout à l'heure le texte, non pas de moi, mais d'un auteur contemporain catholique, mais d'un juif, et se basant sur des rabbins. L'art et la littérature ont retraduit fréquemment la lecture la plus courante de l'histoire d'Adam et Ève chassés du paradis. L'homme et la femme, termine-t-elle, c'est Madeleine Nosso qui écrit ça. L'homme et la femme pourtant gagnent un nom dans leur mésaventure. Lui est appelé Adam et non plus l'Adam. Il a un nom personnel, l'humain tiré du sol. Quant à elle, il l'appelle Ève, c'est-à-dire la vivante. C'est de nouveau une reconnaissance. Si elle-même a été prise de l'homme, c'est d'elle que naîtra tout vivant. Elle lui permettra de devenir père. Elle bénéficie, comme Adam, du geste de sollicitude de Dieu qui leur fait des tuniques de peau et les enlevait. Il n'est plus ensuite parlé d'elle, mais seulement de l'homme qui est chassé du jardin d'Éden et écarté du chemin de l'arbre de vie. Reste la mystérieuse promesse divine du verset 15, où semble bien se dessiner pour un avenir indéfini la victoire de la femme et de sa descendance sur celui qui l'a trompée. La tradition juive a lu ici l'annonce du Messie. Pour les chrétiens, c'est le fils de Marie, vainqueur du mal et de la mort, le vivant par excellence. À y regarder de près, le récit de la Genèse ne trace pas un portrait plus désavantageux de la femme que de l'homme. On peut même penser le contraire. L'histoire montre cependant qu'on a tiré de cette page beaucoup d'arguments contre la femme. Les femmes ont du mal à l'oublier. Se poser à nous au départ, et François nous l'a rappelé hier, c'est comment ces textes peuvent-ils être bonne nouvelle pour nous d'abord, et comment pouvons-nous le présenter aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, où, comme On dit souvent tout fout le camp, hein, sur le plan religieux bien entendu, mais aussi sur d'autres plans. Hein. Comment peut-on présenter ceci comme une bonne nouvelle? Effectivement, ce texte a été composé pour donner à l'homme de l'époque, c'est-à-dire d'après l'exil, qui était désorienté, qui était déstructuré, pour lui donner certains repères. Et le repère, premier repère essentiel, c'est d'essayer de faire découvrir la présence de Dieu dans le monde. C'est pas du tout évident. Ça ne l'était pas autrefois. Autrefois, peut-être qu'il y avait quand même plus le sens d'un sacré dans le monde, mais d'une façon très vague, très polythéiste, c'est-à-dire quantité de valeurs. Et pour faire découvrir un Dieu unique, c'était pas du tout évident. Et ces textes se veulent comme des réflexions sur la situation du monde et donner quelques repères dans cette situation où l'on a perdu, absolument, des repères qui semblaient essentiels autrefois. C'est vrai que le peuple d'Israël avait été structuré par la perspective de la présence de Dieu à l'homme, donc de l'Alliance, et qu'il se trouvait déstructuré. Aujourd'hui, la plupart du temps, il n'y a même pas de structure. Il y a une telle multiplicité de langages, surtout une telle multiplicité d'images, qu'il est très difficile, c'est la tâche de l'éducation, et nous savons qu'elle est vraiment ardue aujourd'hui. La tâche, c'est d'essayer de donner une structure à ces petites personnalités qui utilisent le terme de liberté et ce qu'ils croient l'être, un peu n'importe comment, à partir de ce qu'on appelle, c'est un terme que l'on emploie constamment aujourd'hui, mais enfin, il y a des termes qui sont significatifs, j'ai envie de. Et quand on dit j'ai envie de, c'est évidemment bon, on ne se pose même pas la question. Le bon et le mauvais n'ont plus tellement de signification aujourd'hui, puisque j'ai envie. Et donc c'est cette subjectivité première, ressentie, de façon tout à fait sensible, et même très extérieure, c'est ça qui fait l'effet de structure. Et en même temps, c'est l'âge où la structuration a atteint un niveau extraordinaire. Dans le monde de l'informatique, de l'électronique et de l'informatique, il y a une structuration extrêmement profonde, extrêmement ferme. Mais il n'y a plus de connexion entre les deux, c'est-à-dire entre une certaine sensibilité et une structure qui est rationnelle, qui est efficace, et qui peut aussi être une nouvelle oppression de l'homme, que ce soit maintenant les images ou que ce soit la structuration d'Internet. Nous y reviendrons d'ailleurs. Et un texte comme celui que je vais lire, qui reprend toute la perspective de la création, donne précisément ce type de structure. Il y a à l'intérieur de la création, il y a à l'intérieur du monde d'abord, il y a un principe d'existence. Et ce principe d'existence est à la fois transcendant, il est unique, sinon s'il y a des multiplicités, il n'y a plus quelque chose de un, d'unifié, il est unique. Et en même temps, il est présent à la réalité la plus intime de l'homme, de l'être, du monde, etc. C'est ce beau poème du chapitre 8 du livre des Proverbes. Et je retrouve souvent le monde de la sagesse, parce que c'est dans ce monde de la sagesse que tous ces textes sont sortis, ont surgi, et avec cette préoccupation que je vous disais, restructurer ce monde, Le Seigneur m'a créé prémisse de son œuvre. C'est chapitre 22, le chapitre 8, pardon, au verset 22, lorsque la sagesse parle d'elle-même. La sagesse, ce n'est pas la raison humaine. La sagesse, c'est le dessein de Dieu, l'intention même de Dieu, mais qui est découverte et méditée par l'homme. Le sage, c'est avant tout le roi, c'est Salomon. Et la sagesse, pour Israël, c'est une manière de vivre, non pas seulement une manière d'être, mais une manière de vivre en connexion avec celui qui a fait tout, en connexion avec l'auteur du monde. Et donc c'est essayer, la sagesse de Dieu, c'est le dessein, nous ne pourrions pas dire la rationalité, c'est trop fort, mais le dessein, l'imagination c'est encore trop peu aussi, la réalisation d'un plan. Aujourd'hui, on utiliserait plutôt le terme de projet. La sagesse, c'est le projet de Dieu sur le monde. Et découvrir qui on est, découvrir ce qu'est le monde et où il va, c'est essayer d'épouser, j'utilise le terme parce qu'il est utilisé dans les livres de sagesse, c'est épouser la sagesse, c'est-à-dire s'imprégner de cette sagesse, c'est-à-dire de ce dessein de Dieu, de cette intention de Dieu sur le monde. C'est le chemin du salut, le chemin du savoir-faire, du roi, le chemin du savoir-faire de tout un chacun. Il faut qu'il ait un repère essentiel dans son existence. Il faut qu'il tienne debout. Et ce sens de l'équilibre du sage, c'est découvrir à la fois cette grandeur de Dieu qui ordonne l'univers, la grande machine, et en même temps la petite machine qui est mon intériorité, et qui met ce macrocosme et ce microcosme en harmonie. Voilà un peu cette vision de la sagesse, et c'est une réflexion essentielle. On connaît peu, trop peu, me semble-t-il, les livres de la sagesse, parce qu'ils ne sont pas si faciles à lire, et pourtant ils sont essentiels, parce que c'est à partir de ce livre de ces livres de la sagesse, psaumes compris bien entendu, c'est à partir de ces livres que le Nouveau Testament va avoir un langage pour parler du Dieu unique qui s'est incarné. Si on ne passe pas par la réalité de la sagesse, on se rend compte qu'il manque quelque chose dans l'évolution de la pensée d'Israël. Et donc voilà ce que la sagesse créatrice, c'est pas un demi-dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Il y a une distinction prise entre Dieu et l'homme. La sagesse pourra être, lorsqu'elle est incarnée, Jésus lui-même. Jésus lui-même est une incarnation de la sagesse. Mais ici, elle n'est pas nommée. Elle est proche de Dieu, elle n'est pas Dieu, et elle s'exprime dans un personnage féminin. Très important aussi de voir que c'est un personnage féminin qui dit le dessein de Dieu, qui est très proche de Dieu en quelque sorte, c'est comme son intuition divine, et en même temps tout à fait incarné dans l'humanité. Le Seigneur m'a créé prémisse de son œuvre avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi. Elle est comme naturelle à Dieu. Dès le principe, avant l'origine de la terre, quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Mais il a été enfanté. Ce n'est pas la divinité elle-même. Et ce n'est pas non plus une émanation anonyme, c'est un personnage. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qui l'eût fait ? La terre et la campagne, et les premiers éléments du monde. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, le firmament, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme le maître d'œuvre. C'est une manière d'exprimer les choses, le maître d'œuvre. Et comme le dit la note de la Bible de Jérusalem, ce mot « maître d'œuvre » est rare en hébreu. Le sens d'artisan ou d'artiste est attesté par deux textes, en Jérémie et dans le Cantique, et confirmé par le grec, qui l'a traduit ainsi. Donc la sagesse est considérée comme une collaboratrice du Créateur. Mais elle a été créée par lui, elle a été enfantée. Une autre traduction, fondée sur une légère correction, en fait, l'enfant chéri ou le disciple fidèle du Créateur. Et peut-être bien que l'idée d'artisan pourrait faire penser à un démiurge, à un ordonnateur de la création. Et ce serait peut-être oublier ce caractère plus intime, je dirais presque humain, de cette réalité. Ce n'est pas seulement un artisan, un ordonnateur, un architecte, c'est aussi un personnage aimé, un petit enfant. Quand il assigna son terme à la mer et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme le maître d'œuvre ou bien comme l'enfant chéri. Je faisais ses délices, jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Vous voyez comme c'est bien dit, une réalité mais qui est conçue un peu comme un personnage humain, féminin, qui vient de Dieu, qui est créé par Dieu et pourtant qui est toute proche des hommes, qui est intime à chacune et à chacun. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies, écoutez l'instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. Heureux, ça vient souvent dans les textes de sagesse, ce bonheur qui est un bonheur qu'il faut découvrir parce qu'il nous est donné. Pas un bonheur qui vient de l'homme, mais un bonheur qui est à recevoir. Ça aussi, c'est un peu contradictoire à la manière dont nous voyons les choses. Le bonheur, c'est ce qui me convient à moi. Alors qu'ici, c'est un bonheur qui vient de Dieu et qu'il faut découvrir. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants, car qui me trouve, trouve la vie. Il obtient la faveur du Seigneur. Une sorte de personnification de l'arbre de vie, en quelque sorte. Mais qui pêche contre moi, blesse son âme. Pas me blesse d'abord, mais blesse son âme, se détruit. Quiconque me hait, chérit la mort. Vous voyez, une manière de reprendre le texte de la création, très différente du texte du premier chapitre de la Genèse, mais qui dit un peu la même réalité. Je vais un peu plus loin, et je prends le livre de Ben Sirac, ou Ecclésiastique, livre de la communauté, un autre sage, qui lui vient beaucoup plus tard que le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est beaucoup plus ancien, il date vraisemblablement de l'époque, au début en tout cas, les premiers proverbes de l'époque de Salomon. Et il a subi beaucoup de modifications avant d'arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Le livre de Ben Sirac est beaucoup plus tardif, mais vient de la même préoccupation. C'est-à-dire essayer d'exprimer l'essentiel de la révélation faite à Israël pour les peuples, pour les nations. Une sorte d'ouverture, de rationalisation, si vous voulez, pour le monde d'alors, qui est ici tout à fait un monde grec. C'est pour ça d'ailleurs que le livre de l'Ecclésiastique de Ben Sirac a existé dans la Bible d'abord en grec. On a retrouvé maintenant des originaux hébreux, bien à Qumran ou bien dans une Guénisa au Caire, à la fin du siècle passé. Sinon, c'était une traduction. Et cette traduction était faite précisément pour les peuples païens. Et nous avons le même type de récit. C'est la sagesse, de nouveau, la sagesse. Comme un personnage, comme une reine. Chapitre 24 de l'Ecclésiastique de Ben Sirac. La sagesse fait son propre éloge. Elle se dit, elle s'exprime. Au milieu de son peuple, elle montre sa fierté. La sagesse comme une femme au milieu de son peuple. Ce ne sera pas évidemment étonnant que la sagesse soit d'abord en Israël personnifiée comme Jérusalem ou comme Israël lui-même, et puis que les pères de l'Église vont reprendre tous ces chapitres de la sagesse et les appliquer à la Vierge Marie. La sagesse fait son propre éloge, au milieu de son peuple elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche, donc elle est présente à l'intime de la cour céleste. Devant la puissance, elle montre sa fierté. Nous dirions aujourd'hui sa dignité, sa personnalité. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, donc elle est parole. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. À la fois parole et esprit. Et vous voyez, il y a déjà là toute une première perception, après une première appréhension du Fils et de l'Esprit Saint. Parole et esprit. Issu de la bouche et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. J'ai habité dans les cieux et mon trône était une colonne de nuée. Elle semble s'identifier à Dieu. Seul, j'ai fait le tour du cercle des cieux, j'ai parcouru la profondeur des abîmes, donc je suis là au-dessus et en dessous, dans les flots de la mer sur toute la terre, chez tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné. Et c'est important ceci, ça veut dire que si la sagesse de Dieu est universelle et si elle imprègne toute la création, tout un chacun, tout quiconque peut arriver à la perception de cette sagesse. Parmi eux tous, j'ai cherché le repos. J'ai cherché en quel patrimoine m'installer. Alors le Créateur de l'univers m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente. Il m'a dit, installe-toi en Jacob, entre dans l'héritage d'Israël. Manière d'expliquer le terme d'élection, élection d'Israël. Tu vas aller siéger là-bas, tu auras là ta véritable demeure. Celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente. Et Saint Jean, qui dans son prologue s'inspire de ce chapitre 24e de Ben Sirac, réutilise le terme en disant « il a habité parmi nous », mais le terme grec c'est « il a construit sa tente parmi nous ». Donc, il voit en Jésus le personnage de la sagesse qui vient résider en Israël. Avant les siècles, dès le commencement, il m'a créé. Vous voyez, le « dès le commencement » qui revient. Éternellement, je subsisterai. Dans la tente sainte, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, en sa présence, j'ai officié. Vous voyez, le terme sacerdotal, officié, célébré. J'ai officié. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis établi. Et que dans la cité bien-aimée, j'ai trouvé mon repos, qu'en Jérusalem, j'exerce mon pouvoir. Je me suis enraciné chez un peuple plein de gloire, dans le domaine du Seigneur, en son patrimoine. Et alors, comme le texte de la Genèse, hein, l'auteur du livre, Ben Sirac, aime beaucoup les descriptions. Vous vous rappelez les quatre fleuves? Eh bien, j'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'En-Gedi, comme les plants de roses de Jéricho. Comme un olivier magnifique dans la plaine, j'ai grandi comme un platane. Comme le cinnamome et l'acanthe, j'ai donné du parfum. Comme une myrrhe de choix, j'ai embaumé. Comme le galbanum, l'onyx, l'abdanum, comme la vapeur d'encens dans la tente. Ce sont toutes les composantes de l'encens de la tente. Donc je suis présente à l'adoration des fidèles. J'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe. Ce sont des rameaux de gloire et de grâce. Je suis comme une vigne aux pampres gracieux et mes fleurs sont des produits de gloire et de richesse. Vous voyez, cette présence du dessein de Dieu, de ce dessein d'amour de Dieu, cette présence dans toute réalité et notamment dans la végétation. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes produits, de mes fruits. Car mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim. Désirer la sagesse, c'est toujours en désirer l'avantage. Poser une question, c'est en poser toujours d'autres. Ceux qui me mangent auront encore faim. Ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'obéit n'aura pas à en rougir. Et ceux qui font mes œuvres ne pécheront pas. Et toujours la même caractéristique dans Proverbe 8, 22 et suivant. Et puis, tout cela n'est autre que le livre de l'Alliance du Dieu Très-Haut. Intéressant de voir qu'il s'agit d'un livre, sur cette création, c'est le livre de l'Alliance du Dieu Très-Haut. L'expression de cette alliance de Dieu avec l'homme, la loi promulguée par Moïse, et qui va s'exprimer pour Israël dans le texte de la Torah. Laissée en héritage aux assemblées de Jacob, c'est elle qui fait abonder la sagesse comme les eaux du Pishon, tiens, oui, il revient au texte de la Genèse, comme le tigre à la saison des fruits, qui fait déborder l'intelligence comme l'Euphrate, comme le Jourdain au temps de la moisson, qui fait couler la discipline comme le Nil, comme le Gihon, voilà qui revient, oui, les quatre reviennent ici, ils sont six ici, au jour des vendanges. Le premier n'a pas fini de la découvrir, et de même le dernier ne l'a pas trouvé. C'est un chemin. On n'en a jamais fini avec la sagesse. On n'a jamais fini d'épouser cette présence de Dieu dans l'humanité. C'est encourageant, hein? Car ses pensées sont plus vastes que la mer, ses desseins plus grands que l'abîme. Et moi, le moi ici, mais c'est l'auteur, hein? C'est l'auteur du livre qui s'est imprégné de la réalité de la sagesse, le sage. Et moi, nous dirions aujourd'hui le témoin, je suis comme un canal issu d'un fleuve. Ah, il y a le grand fleuve de la sagesse, et moi je suis comme un petit canal issu de ce fleuve, comme un cours d'eau conduisant au paradis. Et il reprend le terme aussi. J'ai dit, Je vais arroser mon jardin, je vais irriguer mes parterres. Et voici que mon canal est devenu fleuve et le fleuve est devenu mer. Je ferai luire la discipline dès le matin. Je porterai au loin sa lumière. Je répandrai l'instruction comme une prophétie. Et je la transmettrai aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi que je travaille, mais pour tous ceux qui la cherchent. Si je prends ces textes, c'est parce qu'il y a dans ces textes une préoccupation, en quelque sorte missionnaire, on dira à l'époque prosélyte, c'est-à-dire de faire découvrir le secret qu'Israël porte dans sa foi au Dieu unique. Donc, cette foi qu'il porte, qu'il exprime au Dieu unique, et qui est pour lui un bien dont il est responsable pour le monde. Et donc c'est déjà une sorte de préoccupation missionnaire. Et elle est fondée sur le fait que s'il n'y a qu'un Dieu, Dieu est présent à tout un chacun, qu'il soit croyant ou non croyant. Mais on peut évidemment réfléchir aussi sur cette manière de proposer les choses. Effectivement, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, que les textes que nous avons pris, comme toute la Bible dans son ensemble d'ailleurs, fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Ce n'est pas seulement un texte particulier, un texte dont les...